C'est quoi déjà le titre ? L'ancêtre de Noël Buck ne s'appelle pas Gurdil. C'est le sous-titre le plus intéressant, à mon avis. C'est non pas l'histoire de la saga MP3, mais la préhistoire de la saga MP3. L'idée, c'est un petit peu de présenter non pas l'évolution de la saga MP3 elle-même, parce que beaucoup de gens la connaissent. Il suffit un petit peu d'aller sur Netophonics et puis d'aller voir comment ça se passe. C'est d'un petit peu de remonter à ce qui a inspiré les pionniers de la saga MP3, puis ensuite éventuellement ceux qui ont suivi. Mais aussi, il y a pas mal de podcasteurs qui ont fait des fictions audio, et ça les a probablement influencés aussi, probablement plus que la génération qui a suivi, qui a écouté Le Survivor, Nahuel Buck, Reflet d'Acide, et qui a eu envie de faire de l'histoire audio. Alors, il y a eu vraiment, à l'origine, quand on interroge les créateurs un peu mythiques, enfin ceux qui ont été à l'origine du mouvement qu'on a vu en francophonie principalement, enfin en France et en francophonie, les grands canaux qui ont influencé, quand on les interroge, ça a été, pour certains... Par exemple... Ça, quand on regarde ce que Poc dit de ses créations, il a été fortement influencé des 2 minutes du peuple. Mais il y a un autre grand courant qui a influencé des gens, ça a été...
Signé Furax.
Alors, Signé Furax a influencé pas mal de monde. J'en vois dans la salle qui revendique un petit peu d'avoir été influencé par Signé Furax, soit directement, soit parce que la plupart des titres ont été relancés derrière et on a eu l'occasion de les écouter. Moi, je sais que ma grand-mère racontait qu'elle écoutait religieusement Signé Furax tous les jours. Le président du Conseil, René Coty, quand il a annoncé la dissolution du gouvernement, a terminé par un truc du genre « Bon, bah, maintenant, je vous laisse, c'est l'heure de signer Furax », qui est plutôt sympa en conférence de presse au moment où on annonce la dissolution d'un gouvernement. Donc il y a pas mal de gens qui ont été influencés, et des gens de la radio. Alors il y a un autre grand moment, quand on remonte vraiment en arrière, et si on demande, en gros, quelle est l'origine même de la fiction audio, beaucoup de gens ont tendance à répondre. Est-ce que vous avez une idée ?
H2G2.
H2G2, ça en fait partie. Alors H2G2, tiens, j'en ai un petit bout. Est-ce que je vous en mets un bout ?
East India Company. His name is Arthur Dent. He is a 5'8" ape descendant, and someone is trying to build a bypass through his home.
Sorry, you want me to come and lie down there ?
Yes.
In front of the bulldozer?
Yes.
Instead of Mr. Dent?
Yes.
By drink, Ford Prefect meant alcohol. The Encyclopedia Galactica describes alcohol as a colourless, volatile liquid formed by the fermentation of sugars, and also notes its intoxicating effects on certain carbon-based...
Alors ça, c'est un bout du H2G2 original. Alors, ce qui est intéressant de savoir, et ça en reviendra quand on va partir de la fiction radiophonique, c'est qu'à l'origine, H2G2 n'était ni un film ni un livre, c'était véritablement une fiction radiophonique. Et que du coup, ça avait vraiment cet aspect où les gens voulaient avoir et des voix et des bruitages et un certain nombre de choses. Alors ça fait aussi partie des choses que l'on constate. La saga, ou en tout cas l'histoire mythique, en général, quand on demande, en allant chercher au plus loin possible, beaucoup de gens parlent de la guerre des mondes. La partie anglaise de H.G. Wells, adaptée par Orson Welles, à la radio. Et donc, il y a une légende qui dit qu'il y aurait eu une panique. En réalité, on n'est pas trop sûr qu'il y a eu véritablement une panique. C'était peut-être que des gens ont été un petit peu inquiets, mais une véritable panique, on n'y croit pas trop. Mais en tout cas, ça fait partie de la légende urbaine. Mais en réalité, donc là, on est en 1938, ça commence à remonter pas mal. La radio, c'est 1922. Grosso modo, les grandes stations de radio, que ce soit Radio Paris, la BBC, etc., on remonte à 1922. Donc, on monte quand même pas mal en arrière. La véritable origine... celle qu'on pourrait donner, c'est en réalité une création... Alors, il y a une création anglaise et une création française, et celle qui est la plus marquante, à mon avis, c'est Marimoto, qui est une création française qui date de 1924. Et 1924, je vous en fais écouter un petit morceau.
Sinclair.
Je suis là. Je cherche toujours mon briquet. Ah, quelle fourmi, mon... Tiens, le voilà. Tu parles d'une danse, mon vieux François.
Avec plusieurs longueurs d'onde, il a dit.
1785, allons-y.
Oui.
Allez.
Allô. Allô, allô. Ici Pacoville de Saint-Martin. En détresse par 23 degrés, 15 minutes, 35 secondes de longitude nord. Et 14 degrés, 35 minutes, 40 secondes de latitude est.
Entendu ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh, attends, je t'ai le coup d'œil.
Oui, j'en reviens. Ceinture de sauvetage, mon vieux.
Alors c'est la fin.
Il paraît qu'il n'y a plus rien à faire. Il faut appeler tant qu'on pourra.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est en 1924. Alors c'est Jean Minet qui a fait ça. Il avait vraiment une vision. Déjà depuis les années, depuis la fin, je crois que le... J'ai des notes. Le théâtrophone en 1881 était déjà un concept où on enregistrait, enfin on mettait des micros dans des salles de théâtre et on permettait à des gens qui n'étaient pas dans cette salle de théâtre d'accéder soit à des espèces de cafés où on pouvait écouter sous une forme d'un espèce de téléphone, d'écouter des pièces de théâtre, ou pour les plus riches d'avoir carrément ça à la maison. Donc c'était avant la radio. Mais c'était des pièces de théâtre. Et pendant tout un temps, avec l'arrivée de la radio, il y a eu pas mal de gens qui ont eu simplement l'idée de dire ben, une pièce de théâtre, on met un micro, on diffuse ça à la radio. Et on se rend compte qu'il y a pas mal de gens qui ont fait ça. Beaucoup de la BBC a fait ça, des pièces de Shakespeare et autres. Et là, on a vraiment Germinet qui dit « Non, c'est pas comme ça. On va véritablement utiliser les moyens de la radio et faire une fiction. » Donc, en fait, ce qu'on vient d'entendre, qui date de 1924, il faut vraiment voir les conditions qu'on avait à cette époque-là, quelqu'un qui met des bruitages, qui met des effets spéciaux, qui utilise des acteurs pour arriver à créer véritablement une fiction sonore qui finalement dépareillerait pas aujourd'hui. Enfin, il faut écouter, elle est disponible sur Internet, il y a moyen de la trouver sur le site de l'INA, et il faut écouter ce travail, il est absolument énorme. Il y a un travail de mise en scène très très important, et comme je dis, on remonte à 1924. Alors, il y a une autre histoire. C'est pas moi ça ? Si, c'est moi. Il y avait Comedy of Danger qui est sorti juste avant, en réalité. Donc Marimoto n'est pas le pionnier absolu. Mais il y a une autre histoire, je vais vous la mettre là.
We shall suffocate, or starve, or both, my dear, in each other's arms.
Oh. Et là, on est beaucoup plus dans un théâtral. C'est de la voix, c'est du jeu d'acteur, mais les bruitages sont en général assez minimalistes.
Oh,
don't.
There'll be articles in all the newspapers.
Oh. I wish I could read them.
Alors à ce moment-là, on avait véritablement un micro au milieu, les comédiens qui avaient leur papier, qui pouvaient s'approcher ou s'éloigner pour donner cet effet de distance ou de distanciation, mais c'était essentiellement axé sur la voix des gens et un petit peu de bruitage. Donc en 1924, on a vraiment lancé le mouvement. Le truc, c'est que, alors ça c'est un petit peu l'anecdote qui est assez amusante, c'est qu'ils ont fait une répétition sur un canal ouvert de la radio. À l'époque, vraiment 1924, c'était les tout débuts, donc des gens qui écoutaient la radio, il n'y en avait pas beaucoup. Ils ont fait une répétition en direct, et cette répétition a été captée par des gens qui se sont dit « Oh là, il y a un naufrage », et qui ont appelé le ministère de la Marine, etc. Et le ministère de la Marine est intervenu et a interdit la diffusion de la pièce. Donc, parce qu'en réalité, il y avait toute une mise en scène. Ça devait commencer dans un théâtre avec une pièce de théâtre. Et puis quelqu'un a porté un poste de radio en disant « il y a un problème ». Et là, on entendait les dialogues des gens qui étaient en train de lancer leur SOS. Mais là où c'était intéressant, c'est qu'il n'y avait pas que le SOS lui-même qu'on aurait entendu avec une voix de type radio. Mais véritablement, on entendait ce qui se passait sur le bateau, les vagues, le vent et tout ce qui allait derrière. Et au final, le bateau sombre. Et alors, il y avait plein de petits trucs qui étaient glissés dedans, qui étaient assez amusants. Les coordonnées qu'ils indiquent étaient en plein Sahara. Pour éviter qu'il y ait un problème, donc ils avaient donné des coordonnées qui étaient fausses. Et en plus, à cette époque-là, les bateaux ne communiquaient pas en phonie, ils communiquaient en morse. Il n'y avait pas les moyens de radio sur les bateaux qui permettaient de communiquer. Donc ils s'étaient dit, ah, il n'y a personne qui va se laisser piéger, ça va. Et puis en plus, ils avaient un petit peu changé le vocabulaire pour que ce soit un vocabulaire qui ne soit pas totalement de celui qui sera employé par des marins. Mais finalement, le ministère de la Marine a dit, niet, vous le diffuserez pas. Et il aura fallu attendre après la guerre des mondes, pour que finalement une émission de radio diffuse intégralement ce Maremoto, ce qui fait qu'on a la possibilité de l'entendre, mais après la guerre des mondes. Alors la guerre des mondes, évidemment, c'est un grand moment, et là aussi, je peux vous passer des extraits.
Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's.
Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars.
Là aussi, il y avait énormément de travail qui a été fait sur la guerre des mondes.
Would you please tell our radio audience exactly what you see as you observe the planet Mars through your telescope?
Nothing unusual at the moment, Mr. Phillips. A red disc swimming in a blue sea.
L'idée, c'était, à ce moment-là, il y avait une espèce de volonté un petit peu jubilatoire de la part des créateurs de programmes d'utiliser la radio comme point d'entrée.
We take you now to Grover's Mill, New Jersey.
Ladies and gentlemen, this is Carl Phillips again, out at the Wilmot Farm, Grover's Mill, New Jersey. Professor Pearson and myself made the 11 miles from Princeton in 10 minutes.
Le principe de la guerre des mondes, si vous avez l'occasion de l'écouter, je crois qu'elle existe aussi en version française. Elle a été re-réalisée en version française, mais l'original est 10 000 fois plus intéressante, à mon sens. On partait un petit peu comme Maremoto, d'un opéra, enfin d'un programme, et puis qui est interrompu par un speaker qui dit on a appris qu'il y a des choses qui se passent sur Mars, parce qu'on a véritablement l'adaptation de La guerre des mondes de H.G. Wells, si vous avez l'occasion de le lire. C'est un chouette bouquin. Vous l'avez peut-être regardé aussi en film. Je ne sais pas si c'est un chouette film, parce que je ne l'ai pas vu, ça ne m'intéresse pas. Mais en bouquin, c'est vraiment bien. Et donc, ils observent les lancements, enfin, le départ des capsules depuis Mars. Et il y a une mise en scène. De nouveau, on va dire, tiens, on va envoyer un reporter sur le terrain, et puis on va lui faire parler, interviewer le scientifique, et on a toute une série de capsules, et puis on retourne en plateau avec des musiciens, avec machin et son orchestre, et puis on joue de la musique et on l'interrompt de nouveau parce que ça devient de plus en plus catastrophique. Et il y a vraiment l'utilisation de la radio comme fil rouge, et puis l'événement qui se met dessus avec des reporters de terrain, avec des gens qui paniquent à un moment donné, ça prend vraiment son ampleur et on est véritablement dans le principe d'une fiction radiophonique. Au même titre que Maremoto qui avait vraiment cette montée en puissance avec cette interruption et à la fin de Maremoto, il y a le public qui rit, etc. en disant bah, vous avez assisté à une première fiction radiophonique, etc. Et à la fin aussi de La guerre des mondes, il y a Orson Welles qui vient et qui dit bah, c'était Halloween et on vous a fait une farce.
That was no Martian, it's Halloween.
Tonight, the Columbia Broadcasting System and its affiliated stations coast to coast has brought you The War of the World by H.G. Wells, the 17th in its weekly series of dramatic broadcasts featuring Orson Welles and the Mercury Theater on the air.
Donc, il y a un petit peu le même principe qui transparaît. Donc, on est vraiment dans les années 20-30, et à ce moment-là, il y a relativement peu de production, il y a encore beaucoup de théâtre qui est diffusé, et ce n'est pas ceux qui nous ont finalement marqué, parce que, bon, bah, voilà, une pièce de théâtre, si elle fonctionne, si elle marche, s'il n'y en a pas besoin d'avoir beaucoup de visuels, bah, ça fait le boulot, il suffit de l'enregistrer et ça fonctionne. On en a fait nous-mêmes pour s'amuser en saga MP3, et ça marche très très bien, et on peut vraiment s'amuser avec ce genre de choses. Mais on peut se dire que ce que nous avons réinventé ou que nous nous sommes réappropriés existait depuis vraiment très très longtemps et a influencé pas mal de monde. Et c'est là où c'est intéressant de voir l'évolution aussi bien dans le monde des podcasts qui n'a pas été forcément très très lié avec le monde de ce qu'on a appelé la sagasphère avec grosso modo Noël Buck et l'ensemble des parodies qui ont pu être créées par la suite, mais qui ont aussi créé des fictions audio. Et effectivement, on a l'influence de H2G2 avec l'adaptation par Nicolas Botti de la version aussi de la version radiophonique qui était mise en scène par Dirk Maggs, qui est un type extraordinaire, qui avait vraiment une touche dans la manière de faire les choses. Et puis j'ai d'autres exemples que je pourrais vous passer, mais on va se retrouver très vite court en temps parce que je peux vous en faire 6 heures. On est déjà à 12h30, donc on va quand même un petit peu avancer. Donc, en gros, on a, dans les années 30-40, un certain nombre de créations, et ça se stabilise un petit peu. Alors, on a de la création avec une grande volonté de faire des tas de choses très créatives, très inventives, et on a aussi une espèce d'approche beaucoup plus littéraire, avec un narrateur qui raconte l'histoire, et de temps en temps, des capsules avec des sons, avec des bruitages. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un espèce de moment où il y avait une vraie demande importante. Et c'est un petit peu le moment, 1950 à peu près, où finalement Signé Furax est arrivé. 51 pour le premier Signé Furax. Après, il y a eu une pause sur le... Alors, le premier Signé Furax, je ne peux pas vous faire écouter d'enregistrement parce qu'il n'existe pas. Ils ont été perdus par l'INA, donc on ne les a pas. Par contre, ils ont continué avec Le Boudin Sacré, avec Le Gruyère qui tue. Là, donc, c'était 56-57, 58, ça a été jusqu'à 59, je crois. Et là, on a finalement des chansonniers qui s'amusent devant un micro et sur une structure relativement simple. On a principalement des acteurs, d'excellents acteurs de théâtre. Amato, qui fait un Furax extraordinaire. Black et White, Pierre Dac et Francis Blanche, qui jouent les détectives qu'on suit au fur et à mesure de l'histoire. Mais c'est une production extrêmement soutenue, qu'ils écrivaient à flux tendu. Le mardi, ils se réunissaient pour écrire, et puis après, ils commençaient le travail d'enregistrement, puis la mise en onde par Pierre-Arnaud de Châtipoulet, évidemment. Et il y avait ce travail de metteur en onde qui était finalement le réalisateur, ce qu'on appelle en saga MP3, le créateur, le réalisateur d'une manière générale, qui faisait tout ça. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a vraiment un espèce de mix avec un travail qui est fait en amont, éventuellement avec des bruiteurs, mais c'est relativement rare finalement le bruiteur qui a vraiment tout sous la main. Et, je sais que Couleur 3 l'avait relancé pendant un été. C'est la RTS, je me trompe, RTS Couleur 3, avait fait coup de théâtre avec une série de fictions audio qui étaient réalisées avec un petit peu cette structure, un narrateur, des voix qui font les différents personnages, un bruiteur et un pianiste qui faisaient la musique en direct, et ils jouaient ça en direct. Donc c'était plutôt amusant et plutôt intéressant parce que c'était filmé. Malheureusement, les enregistrements ne sont plus disponibles sur la RTS, donc on ne peut plus les voir. Ceux qui ont assisté, c'est super. Puis les autres, tant pis pour vous. Peut-être qu'ils les ressortiront un jour ou l'autre, donc ce sera plutôt sympa. Mais on avait vraiment cette structure un peu à l'ancienne où il fallait produire très vite, donc on mettait des comédiens dans des cabines et puis un narrateur aussi, chacun dans une cabine avec un micro et puis un casque, et ils entendent au fur et à mesure ce qui se passe et peuvent mettre ça en scène. Donc ce qu'on constate, c'est qu'à un moment donné il y a un retour de l'envie de créer des choses beaucoup plus travaillées, beaucoup plus riches. Et donc, on va retrouver, entre autres, l'adaptation d'H2G2 qui remonte quand même aux années... Alors, H2G2, c'est dans les années 70, quelque chose comme ça. Pardon ? Oui, c'est quelque chose comme ça. H2G2, là, on a un vrai retour de... On va mettre ça en scène, on va mettre... des bruitages, on va mettre de la musique, on va mettre énormément d'ambiance, on va mettre des bruits des fonds derrière. Et c'est un petit peu, c'est une des raisons pour lesquelles ça nous a influencé, c'est que on rentre dedans. On est dans une structure où dans H2G2, il y a encore un narrateur, mais très vite on se retrouve que des gens ont envie de s'approprier complètement le média et de ne plus se servir d'un narrateur et d'avoir directement l'histoire qui se raconte par elle-même et qui se tient par elle-même et qui se diffuse. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? Alors, on a des adaptations, entre autres, de livres. Alors, les livres de Tolkien en Angleterre. Alors, on a... Tiens, je peux vous en passer un bout, ça ? Est-ce que j'ai quelque part ? Ça doit être sur cette page-là. Le Hobbit. Je vous mets un extrait du Hobbit.
One morning, long ago, in the quiet of the room,
encore un narrateur.
Bilbo was standing at his door after breakfast, smoking an enormous long wooden pipe.
Bon, musique, narrateur, voilà, on est dans relativement classique.
When Gandalf came by.
Where are you going, Baggins?
What about a little light?
We like the dark.
Dark for dark business.
And there are many hours before dawn.
Oh, yes, of course. Of course, yes.
Là, on est en 68.
Let Taurin speak.
Alors, donc là, on a du bruitage, on a une mise en scène qui est un petit peu plus fouillée. Il y a une vidéo sur la RTS, d'ailleurs, je crois, qui est assez intéressante si vous cherchez, qui montre des comédiens en train d'enregistrer dans un studio et on les voit s'approcher du micro. C'est une scène où il y a un incendie et ils doivent s'échapper. Et donc, ils sont près du micro dans un espace, un auditorium relativement grand. Et là, bon, ils sont en train un petit peu de paniquer. Et puis, ils sautent vers l'escalier. Et là, on les voit physiquement, la caméra les suit. Ils se mettent à courir et ils vont dans une salle qui est beaucoup plus petite. Donc, il va avoir une résonance tout à fait différente. Et il y a un autre micro qui est là. Et là, ils continuent les dialogues. Et il y a la belle-mère qui veulent laisser dans l'immeuble à crever pour toucher, je présume, l'héritage. Elle est dans une autre cabine et elle hurle, mais c'est une cabine insonorisée, ce qui permet qui lui permet de crier fort. Et il y a l'ingénieur du son qui est là avec des disques de vinyle et de bruitage, et il pose les bruitages de la sirène de pompiers et de tout ce qui va derrière. Et donc lui, il a vraiment son script et il a plusieurs platines de disques, un petit peu comme un DJ, et il va poser le saphir sur la bonne piste pour avoir les bruitages qui se mettent, et il mixe ça en direct. En réalité, quand on voit qu'il nous faut parfois des mois pour réaliser une saga MP3, on se dit que ça pourrait être vachement valable d'être à un endroit, d'avoir un auditorium et de pouvoir faire ce genre de choses, et on aurait des choses extraordinaires qui seraient pratiquement tournées, montées. Il n'y aurait presque plus rien à faire. On ferait peut-être un peu d'équalisation, puis on aurait notre produit fini. Mais voilà, il faut évidemment un auditorium, il faut tout ça. Alors la maison de la radio a pris vraiment le pas de ça, de continuer dans cet ordre-là. Alors ils travaillent un petit peu plus détachés, les bruitages, ils vont les rajouter parfois derrière, mais tous les bruitages qui sont inhérents à l'action même, ils vont les enregistrer en direct. Et il y a de très chouettes reportages aussi que vous pouvez trouver sur Internet, entre autres de Patrick Martinache, qui est probablement le grand gourou de la prise de son à la maison de la radio. Et il y a de très très chouettes écritures, je peux vous en mettre. On est sur des choses relativement récentes, on est sur de la production qui date de ce siècle, de ce millénaire. Je vais vous mettre des trucs. Alors entre autres, on a Millennium qui a été un grand truc, qui a énormément marqué les gens et qui a un petit peu fait réaliser que les fictions radio de la maison de la radio, ce n'est pas que de la production un peu au kilomètre avec un narrateur qui est excellent comédien, c'est vraiment excellent, mais avec relativement... le narrateur prend énormément le pas sur la mise en scène, finalement, et puis quelques séquences dialoguées avec trois bruitages qui se posent là, ce qui est souvent suffisant, mais qui ne correspond pas à ce que nous, on veut faire. Nous, en général, en matière de saga MP3 ou de fiction radio, on a envie de mettre des tas de bruitages et on utilise des banques de bruitages à fond pour donner toute l'ambiance, toute la réalisation. Donc, Millennium... et en plus, les reportages qui sont vraiment excellents, où on voit Patrick Martinache faire la prise de son de Millennium. Je peux citer d'autres choses et je vais vous en mettre des extraits. Parvite et revient tard, de Fred Vargas, qui est absolument extraordinaire. En 2014, donc ça c'était 2013, un long dimanche de fiançailles en 2014, qui est l'adaptation du livre, et de nouveau pas du film et de tout ce qui en a découlé, donc vraiment très très bien. Beaucoup de travail de mise en scène, de nouveau parfois un petit peu de narration, mais ça correspond au livre, donc du coup l'adaptation est plutôt sympa. La traversée de l'Hudson avec aussi un très chouette reportage qui date de 2014, donc on est sur des choses vraiment très très récentes. Les petits polars du monde, qui est toute une série de choses produites par, je ne sais plus si c'est France Culture ou France Inter, en tout cas la maison de la radio. Certains sont même cofinancés par la SNCF, enfin coproduits par la SNCF. Il y avait un truc, la SNCF et les petits polars du monde. Il y a Nuit Noire, Nuit Blanche, toute une série de fictions qui sont vraiment intéressantes. J'ai un petit extrait de tas de choses. Est-ce que je les ai là, ici ?
Il fait une halte pour allumer une cigarette. Mais comme il entend le vacarme assourdissant...
Reste à la fin des manifestations. Avouez qu'on ne se moque pas de vous.
Le gros m'énervait avec ses airs précieux, mais il avait touché le point sensible.
Cette
offre tombait pile poil pour des ridicules. Ok, Massé, je marche, mais je veux 15 000 d'avance, cash.
À la bonne heure. Affaire conclue, cher
ami. Production relativement simple, de nouveau.
Bonjour, Bertin.
Salut, de Cambrai.
Et là, on monte en pente.
La forme ce matin ?
Oh, mais ça se rafraîchit sérieusement, dites-moi.
Heureusement, j'ai ces nouveaux poils.
Préfecture de police, brigade criminelle. Oh mince, c'est pas ici le commissariat alors.
Caverne au trésor.
Il avait l'air très gentil, ce nègre loueur de voiture.
Ça, c'est la traversée de l'Hudson.
T'aurais été le moment de mettre ton maillot de corps. Arrête ça, je t'en prie. Je te l'ai déjà demandé tout à l'heure.
Car elle estimait qu'elle ne faisait pas le poids.
Elle est beaucoup trop commune pour toi. Regarde un peu ses parents.
Je faisais l'innocente. Le bustier pigeonnant devant l'employé du ministère de l'Intérieur payait 2000 euros par mois.
Une mise en scène, ça vous évoque quelque chose ? Le meurtre de Négret à nous ne colle pas avec les autres. Il a été tué avant.
Ils savaient tous qu'ils avaient été désignés pour accompagner des condamnés à mort.
Et pour les fusiller, c'est ça ? Et Manège faisait partie des cinq.
Non, on les a pas vus.
Et tous les dragons sont repartis dans un grand nuage d'haleine blême.
Voilà, donc on constate qu'au fil du temps, on garde parfois la structure très simple, narrative, dialogue, 3-4 bruitages, et c'est relativement facile, ça se produit très vite, et des choses qui sont beaucoup, beaucoup plus produites, avec la méthode de la maison de la radio, qu'on va retrouver dans Le Cacao qui tue. Donc, qui est une production qui est semi-amateur, enfin qui est faite par des professionnels, mais qui a été faite avec une production pratiquement privée et sur les fonds privés. Il y a eu un petit peu de fonds publics, mais principalement privés, et qui est diffusée librement sur Internet. Donc, Le Cacao qui tue, pareil, avec la même manière de travailler, des dialogues, des bruitages pris en direct. Donc, tout ce qui est bruit de pas, bruit d'accessoires, des portes qui s'ouvrent, si quelqu'un mange, les bruits de fourchettes dans l'assiette, etc. Tout ça rentre dedans et c'est un petit peu la méthode de la maison de la radio. Pour nous, c'est très compliqué à faire. Donc, du coup, on a tendance à enregistrer nos voix, à faire ça le mieux possible. Ce qu'on constate aussi, bon là on est dans un amphithéâtre, donc c'est pas dans un auditorium, donc c'est pas forcément évident d'entendre les détails et la subtilité, mais quand on écoute ces extraits, on réalise qu'il y a eu énormément de travail sur la réverbe, sur le réalisme du lieu. Si on est en espace ouvert, si on est dans une grande salle, si on est dans une petite salle confinée, si on est dans une voiture, il y a du bruit de fond, il y a des bruits qui sont étagés, et tout ça, c'est des choses qu'on a tendance à faire nous-mêmes, qu'on s'est réapproprié, mais qu'on n'a pas inventé. Tout ça remonte, et bizarrement remonte même à 1924, ce qui est plutôt sympa. Alors après, en parallèle, il y a d'autres choses qui sont faites que je pourrais vous faire écouter, qui sont aussi sympas. En Angleterre, ils ont une autre approche, c'est la BBC a continué à faire de la production. France Culture reste quand même un média assez serré au niveau de son audience. Tout le monde n'écoute pas France Culture, c'est un peu dommage, mais bon. En même temps, il y a des moments, faut reconnaître, c'est chiant. On a l'impression qu'ils vont suicider quand ils sont au micro. Alors, il y a des fictions qui justement font contraste énorme, et c'est plutôt sympa. Mais souvent, on a les gens qui sont là, bonjour, bonjour. Alors, vous êtes le créateur de machin. Donc, ouais, bon, ça c'est France Culture, on n'a pas toujours envie d'écouter ça. Mais il faut au moins écouter en podcast les créations des fictions radio qui sont sympas. Alors, l'Angleterre n'a pas arrêté de produire de la fiction radio. Et non seulement elle n'a pas arrêté, mais en plus, les comédiens qui travaillent soit au théâtre, soit au cinéma, soit dans d'autres métiers de comédiens, font de la radio aussi. Je peux vous citer comme exemple Benedict Cumberbatch, et il fait partie des stars qui fait de la fiction radio. Et on aurait du mal à imaginer Depardieu en train de faire de la fiction radio. Et pour autant, c'est un comédien, donc il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas. Il fait aussi bien de la scène que du cinéma, que même de la série. Donc du coup, il pourrait très bien se retrouver en radio. Est-ce que je vous mets un extrait de Cabin Pressure ? Cabin Pressure de la BBC, ça c'est, si vous parlez anglais, il faut absolument écouter ça. C'est drôle d'un bout à l'autre. Et eux, leur méthode de travail, c'est enregistrer en public, sur une scène. Donc les rires du public, ce n'est pas des rires en boîte, mais à la mode anglaise, les Anglais ont tendance à avoir ces programmes-là où le public participe et rit et s'esclave pendant l'enregistrement. Donc ça fait partie du truc. Donc Cabin Pressure, ils sont sur une scène, il y a des chaises à l'arrière de la scène, ils sont tous assis sur leurs chaises, et puis ils ont leur script dans les mains et ils se lèvent et approchent du micro principal quand ils ont besoin de faire leur dialogue. Et ils entrent dans ce dialogue-là, puis ils repartent à leur place quand c'est plus nécessaire. Cabin Pressure, ça se passe dans un environnement qui est principalement dans un avion, en train de voler. Il y a du bruitage. Bizarrement, on pourrait croire que ça pourrait être ultra simple et uniquement des comédiens qui parlent dans un micro. C'est très, très orienté comédien, punchline, un petit peu à la mode qu'on pourrait finalement, qui est dérivé du stand-up, etc. Mais avec une mise en scène, je vous en mets un petit bout. Ça, c'est le générique.
Cabin Pressure, by John Finnemore. Starring Stephanie Cole as Carolyn, Roger Allam as Douglas, Benedict Cumberbatch as Martin, and John Finnemore as Arthur. This week, Abu Dhabi.
Jobs.
France Control, this is Golf Tango India. Request immediate diversion to nearest airfield.
Roger, Golf Tango India, do you have an emergency?
Well, we've got...
One moment, please, Tower.
What is it, Douglas?
Captain.
Donc, il faut savoir ce qui se passe. En fait, pour pouvoir atterrir le plus vite possible, ils prétendent qu'il y a de la fumée dans le cockpit. Or, le capitaine refuse Benedict Cumberbatch refuse de mentir au truc. Donc, son copilote allume une allumette, craque une allumette qu'on entend, donc c'est le bruitage qu'on entend, et ce qui fait rire évidemment le public, parce qu'à ce moment-là, on sent la fumée, et donc il peut dire qu'objectivement, il a senti de la fumée et il se pose. Donc on est sur du dialogue très drôle, très, très, très rythmé, etc. Et finalement, quand on écoute, c'est pas uniquement des personnages, des comédiens qui sont là. C'est enregistré en direct, c'est pareil, c'est tourné-monté, c'est incroyable, puisque le public, lui, il a tout. Et donc, il y a des ingénieurs du son qui sont derrière et qui envoient du bruitage, soit c'est de l'enregistrement. Je ne sais pas comment ils font, parce qu'il y a très, très, très peu d'images. On a quelques images où on les voit enregistrer un petit bout de truc, mais on voit vraiment la partie scène et le reste, on ne le voit pas. Il y a un autre programme qui est, lui, amateur, mais qui a atteint un niveau de professionnalisme qui est absolument incroyable et que vous connaissez peut-être, qui est américain. C'est We're Alive. C'est un programme, donc c'est une histoire de zombies. Enfin, grosso modo, plutôt bien foutu. Et là, on est au départ des amateurs qui ont loué un auditorium et qui ont pu travailler avec l'auditorium et qui ont utilisé le même principe. Tout le monde joue en même temps, se donne la réplique et on enregistre tous les micros en même temps. Mais il y a un gros travail de post-production pour ajouter les bruitages, les musiques, etc. Et We're Alive, on parle de millions de téléchargements à l'heure actuelle. Ils ont dépassé les 2 millions de téléchargements. C'est un truc absolument gigantesque. Ils ont fait des spin-offs qui sont financés maintenant. C'est un truc absolument énorme. De nouveau, si vous parlez un petit peu l'anglais, enfin, si vous comprenez l'anglais, lancez-vous sur We're Alive. C'est 4 ou 5 saisons, c'est un truc absolument gigantesque, énorme, et très très belle histoire, très 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 chouette, très bien écrite, et pas simplement du zombie, quoi. Il y a tout un développement très très intéressant qui est fait dessus. Et là, on est sur de la production semi-amateur, avec une volonté de travailler comme les professionnels, et quand on regarde leur méthode de travail, on est très proche de ce que fait la BBC et probablement de ce que font les productions américaines, parce que l'Amérique aussi n'a pas abandonné la fiction radio et produit des choses et les diffuse sur la radio. Donc il y a de la matière. Et c'est vrai que, hormis les productions de Radio France, il y a relativement peu de productions francophones. Il y en a, et il ne faudrait pas l'ignorer. Il y a des capsules qui sont enregistrées. Je pense par exemple à Olivier Paulet. Tiens, je peux vous montrer un petit bout. Olivier Paulet, direction assistée.
Direction assistée, Olivier Paulet.
C'est là ?
Tu es arrivé.
Bah dis-le.
C'est ce que je viens de faire.
Bon, je te te laisse la petite, j'en ai pas pour longtemps.
Merci du cadeau.
Bon, voilà, c'est juste un extrait pour avoir une idée de ce que ça donne. Mais voilà, on est aussi de nouveau sur quelque chose qui est produit. Il n'y a pas simplement du dialogue, il y a des effets sur la voix. Bon, là, il y a un GPS et puis le conducteur. Il y a un bébé, il y a le bruit du frein à main, il y a le bruit d'ambiance de la voiture, il y a tout ce qui va autour. Donc, on est sur la production. Ça, c'est fait par France Bleu. Et il y en a d'autres. Je peux citer Elle se marie à Urbeaucourt d'Emmerde, qui est très, très sympa aussi en épisode.
Elles se marièrent
et eurent beaucoup d'emmerdes.
De Hélène Le Gall.
Minuit sonna, une citrouille changée en carrosse, pantoufle de verre, le prince ébloui par Cendrillon.
Taxi ! Oh,
merde. Je me disais bien que ça avait pas l'air de tourner rond, mais quand même. Les princes sont cruels, Cendrillon, tellement cruels. Tant qu'il y a des lecteurs.
De nouveau, c'est produit. Alors, il peut y avoir de la voix off, il peut y avoir des choses. Tous les codes ne sont pas forcément abolis. C'est un petit peu prendre de l'un de l'autre. Mais on est dans quelque chose qui peut nous inspirer ou nous a inspiré. Donc, pour certains, on a été clairement inspiré. Alors, évidemment, Tigny Furax, évidemment, la guerre des mondes et la manière de traiter la chose. Et quand on regarde les fictions... amateurs que nous avons produites, ben, certaines s'en inspirent clairement, certaines ont carrément des références. Une autre production de radio, c'est Europe 1 qui a fait ça en 2013, La malédiction des trois corbeaux. Alors là, c'est 2 000 000% inspiré de Signé Furax. Il y a le même état d'esprit. Alors, il faut aimer la bande à Ruquier parce que c'est la bande à Ruquier qui le fait. Si on aime la bande à Ruquier, il y a vraiment moyen de s'amuser parce que c'est un peu le même principe que Pierre Dac et Francis Blanche et leur bande de copains qui font les clowns finalement au micro parce que ça n'a pas forcément une portée extraordinaire. Ce sont des chansonniers. Ils appliquent la même chose. Quand on écoute le générique, on est dans Signé Furax à mort. On a vraiment l'impression d'y être. Pour moi, j'ai trouvé en l'écoutant, mais je ne suis pas un grand fan de la bande à Ruquier, donc du coup, je ne suis pas totalement rentré dans leur délire. J'ai trouvé qu'au niveau de la réalisation, c'était un peu facile, mais c'est clairement quelque chose qu'ils ont dû faire ça pendant l'été, en allant choper les gens, éventuellement avec un Agra ou un Zoom dans leur bureau, et donc le son n'est pas toujours ultra propre, etc. Mais il y a un travail de mise en scène. Hein. Quand on l'écoute, il ne faut pas non plus s'arrêter à ça. Quand on écoute, il y a des ambiances, il y a des tas de choses qu'ils font, il y a de la musique qui est mise dessus. Alors de nouveau, on est sur des trucs qui sont très très signés furasquesques, la production elle mérite d'exister et on est clairement dans un milieu qui est hors maison de la radio et qui a aussi finalement le souvenir de cette époque et qui a envie de continuer à produire des choses. En parallèle, il y a eu beaucoup de radios privées qui ont fait ça, des radios étudiantines ou des radios des campus privés, évidemment Radio Prune, avec toutes les créations de principalement d'Antoine Rouault, si on peut les citer, aussi loin que ça se souvienne les Lilas, Baifouish, les yeux de l'ange bleu, évidemment. Donc là aussi, on est sur des productions qui sont des années 2000 et qui se sont très clairement inspirées de l'époque signée Furax, dans la manière d'écrire, dans la manière de produire aussi. Mais ça prouve qu'il y a des radios qui sont sensibles et qui ont continué à produire des choses. Alors c'est minimaliste par rapport à... J'ai vu des statistiques sur les productions dans les années 20, 30, 40, où il y avait des centaines de productions qui étaient produites tous les mois. C'était incroyable. Et là, bon, on peut en citer 5, 6, 10 au maximum. Donc c'est... Sur 10 ans, 15 ans, c'est absolument ridicule. Et c'est pour ça qu'on peut considérer que aussi bien la podcastosphère que la sagasphère a un peu repris le flambeau et a continué le mouvement. En partie grâce aux 2 minutes du peuple qui ont été à un moment donné cette espèce de liant entre je fais de la radio mais je fais des trucs marrants, ça se produit relativement facilement. Et des gens comme, bah, entre autres, POC, ont pu se dire « Ah ben tiens, mais ça je peux le faire moi-même ». Et donc voilà. Ils ont pu se lancer dans l'affaire. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire ? Il faut que je surveille l'horloge. Parce que moi, je me suis engagé à terminer à l'heure. Enfin, j'ai 10 minutes, c'est cool. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Est-ce que je peux vous dire des choses ? Le cacao qui tue. Vous voulez entendre des bouts du cacao qui tue ? C'est juste pour vous faire plaisir. Non, je vais commencer par la malédiction des trois corbeaux. Là, on est dans du furax à mort. C'est pas la musique, mais c'est la même manière de le faire.
L'histoire commence un lundi matin à Narrateur. Paris. Le président de la République, Pierre Benichou, tout juste sorti vainqueur des dernières élections, vient de quitter l'Élysée en voiture pour se rendre à Europe 1.
Je veux pas y aller. On n'a qu'à dire que je suis malade.
Oh papa, tu vas pas recommencer.
Non, mais cette fois, je crois que je suis vraiment malade. Touche mon ventre.
Vous savez, professeur, que mes amis et moi attendons beaucoup de vous.
Et vous avez raison, monsieur Miller. Parce que, sans vouloir me vanter, je suis un génie.
On va pas tarder.
Je vous mets un bout des yeux de l'ange bleu. Générique pour le plaisir.
Un petit coin de paradis où l'on pouvait vomir gaiement sur son prochain en étant sûr qu'il vous rendrait à l'appareil un jour.
Qu'est-ce que vous prenez ?
Un scotch.
T'as l'âge légal ?
Bien sûr. J'ai la glotte alcoolique.
Bon, je ferme les yeux pour une fois.
Là, c'est le gong final qui est aussi typiquement le gong que l'on a à la fin de Ciné Furax. Donc, on a clairement une paternité. C'est amusant aussi d'avoir un narrateur qui, finalement, est le héros de l'histoire, qui le raconte de manière décalée. C'est quelque chose qu'on a aussi entendu en saga MP3 avec le même principe. Isendil faisait ça aussi dans ses sagas avec un narrateur de, grosso modo, le survivant, le héros de l'histoire qui raconte son histoire à qui veut l'entendre dans un bar, grand classique de mise en scène, mais qui fonctionne toujours et qui est toujours utilisé. Le cacao qui tue, ça c'est là, on est dans de la très grosse production. C'est fait par finalement des gens qui sont issus qui sont des ingénieurs du son. Ils sortaient tout juste de l'école et ils sont allés à la maison de la radio pour voir comment on faisait. Et ils se sont surtout offert les services d'un bruiteur et d'un preneur de son d'un niveau très élevé. Donc
pleine mer des Antilles. Les pirates font régner la terreur et imposent leur loi.
Narration.
Miribi ? Miribi ?
Gros travail sur la réverb, gros travail sur la production. Ils ont enregistré pendant tout le temps où ils pouvaient enregistrer, parce qu'ils ont pris des comédiens, ils ont été chercher des vrais comédiens, parce que c'était un petit peu leur manière de voir les choses. Ils ont tout enregistré d'une traite, puis après ils ont mis super longtemps, ils ont mis 4 ans pour arriver à tout produire au final. Ça a été énormément de travail de post-production, mais 4 ans, quand on regarde les créations majeures, c'est pas grand-chose. Quand on est à la console, ça nous arrive de passer 6 mois sur un épisode, et quand on dit 6 mois, c'est la limite basse, quoi. Il y a des gens qui y passent des années, donc c'est pas totalement aberrant, mais on se retrouve sur des choses extrêmement produites. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que non seulement on a une base très radiophonique, donc une inspiration très radiophonique, mais aussi l'utilisation des techniques les plus modernes, puisqu'on a à la fois l'approche de, quand on regarde les vidéos, les making-of du cacao qui tue, c'est très intéressant aussi, c'est qu'on les voit avec le bruiteur qui lui enfile les chaussures, parce que c'est pas le comédien qui marche, c'est le bruiteur qui fait le travail de marche pour que le comédien se concentre sur son texte et soit vraiment dans cette partie-là. Et le bruiteur, lui, il a ses chaussures, s'il y a des bruits extérieurs, etc., c'est lui qui les fait. S'il faut armer un fusil, c'est lui qui arme le fusil, etc. Exactement comme on voit Martin Hache faire de la même manière quand il a ses comédiens qui sont en train de manger ou de boire. Eh ben, c'est lui qui tient l'assiette, c'est lui qui tient le verre, c'est lui qui fait ces bruits-là et qui les enregistre en direct. Donc tout ce qui est intégré à la scène, c'est directement pris à la prise. Et après, on rajoute toute la post-production qui se fait par derrière. Dans la même méthode. Qu'est-ce que je peux vous mettre d'autre chose ? Tiens, un truc aussi qui a été une espèce de d'ovni, mais finalement intéressant parce que de nouveau, un espèce de mix entre radio et création amateur.
A friendly desert community where the sun is hot, the moon is beautiful, and mysterious lights pass overhead while we all pretend to sleep. Welcome to Night Vale.
Bienvenue à Night Vale, la version anglaise ici que je vous ai mise, qui a été très bien
military
adapté.
Cemetery. His hair is perfect, and we all hate and despair and love that perfect hair in equal measure. Old woman Josie brought corn muffins, which were decent, and now the weather.
Donc il y a tout
a friendly
un.
Des...
Terminé. Hop. On arrête, on se calme. We arrive. Tiens, je vous mets un petit bout. Est-ce que j'ai encore le temps ? C'est juste pour le plaisir là. C'est 4 minutes. On est bon. Hein. Allez, je vous mets un petit bout de We Are Alive.
We're alive.
A story of survival.
What the hell do you want me to do? He's not moving in front of me either. Can't go anywhere, goddamn.
We stood there watching the gate, waiting for someone to show up. After a minute or so, I started to think of what the consequences were for my actions. Did I jump the gun on this one? Would I get punished?
Alors là, on a un mix. Au niveau technique, ça a été tous enregistrés au même endroit. Donc, ils avaient vraiment un rond de micro. Ils étaient tous avec leur micro. Ils ont enregistré comme ça. Mais les bruitages ont été faits en poste. Il n'y a pas eu de bruitages locaux. Tout a été fait en post-production. Donc, c'est une approche un petit peu différente. Au niveau de l'écriture, on a un narrateur qui est un des héros. C'est pas toujours le même. En réalité, à un moment donné dans l'histoire, on leur conseille d'écrire un journal des événements pour un petit peu avoir des traces, surtout s'ils sont zigouillés entre temps, donc pour avoir un petit peu de quoi lire. Et donc on a cette voix qui est narratrice, et puis on inclut ensuite très très vite des choses très très produites, une mise en scène qui est plutôt bossée, avec des gens qui sont des comédiens. De haut niveau, de haut vol, et c'est vraiment excellent, plus tout un travail d'ambiance. Donc finalement, quand on regarde, là on est sur une production tout à fait récente, on n'est vraiment pas loin du tout de 1924. Ce n'est pas les mêmes moyens, mais moi ce que je suis assez étonné, c'est de voir à quel point Marimoto avait déjà tout posé. On avait... l'utilisation du support, l'utilisation de l'évolution de l'histoire, les bruitages, les comédiens. Il y avait pas de musique. On avait très très peu de musique. La musique était presque des intermédiaires. C'est un petit peu aussi ce qu'on retrouve dans Signé Furax. Mais on a un petit peu cette même approche. Et nous, finalement, on a embrassé tous ces codes. On les a réinventés, on les a remis à notre sauce. On travaille énormément chacun chez soi et on s'échange des voix par Internet, qui est presque le nouveau moyen. Mais on se rend compte que pas mal de gens continuent à travailler et avec bonheur à se réunir et à travailler ensemble. Alors ça, on peut évidemment penser à l'Épervier ou même aux créations d'Antoine Rouault, mais ce n'est pas les seuls. Il y a aussi des producteurs parmi les productions les plus récentes qui ont cette volonté de faire venir les gens au même endroit et d'enregistrer dans la même unité de lieu. Bon, c'est pas forcément la méthode la plus unique, parce qu'on n'a pas tous des auditoriums suffisamment larges pour pouvoir enregistrer tout le monde. Mais finalement, les codes que l'on a, ils sont toujours là. Et on peut dire qu'on n'a rien inventé, on a vraiment tout réinventé, on s'est tout réapproprié. Et ça, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. On peut vraiment dire que nos ancêtres, c'est la radio, et on peut en être fiers. Démontage inclus, on est bon, c'est incroyable.
Juste une question. Deux questions même. Il y avait de la répète quand même avant, non ? La répétition avant ? Ou ces braves gens qui faisaient ça en live ?
Alors en live, il y a eu une grande discussion au sujet des répétitions. Certains voulaient vraiment le faire à la mode du théâtre, envoyer les textes et s'attendaient à ce que les comédiens connaissent leurs textes, etc. Mais ils se sont rendus compte que les comédiens perdaient leur repère d'espace parce que ils doivent être calés au micro, ils ne doivent pas en bouger ou alors se déplacer par rapport au micro. Il y avait vraiment un travail de positionnement lié à la technique. Et donc, très très vite, ils ont abandonné la notion de répétition. Il peut y avoir des répétitions, des lectures du texte, etc. auparavant, mais ils se font toujours, et maintenant on les voit systématiquement, texte en main, ils ont l'impression du texte, et ils disent leurs phrases, alors c'est dialogué, mais ils le font texte en main. Donc on ne peut pas dire qu'ils aient appris leur texte comme on le ferait au théâtre, où il y a toute une part de répétition, mais il est évident qu'il y a une mise en place. Il y a une direction d'acteur de toute façon, et cette direction d'acteur peut dire, bon, ok, on fait un premier jet, on regarde ce que ça donne, puis après on dirige un petit peu. Donc oui et non.
Et pour caler en timing par rapport au bruitage ?
Alors, quand on travaille à la mode de la maison de la radio, le timing par rapport au bruitage, il se fait en direct. Donc, si on est... il suffit vraiment d'aller voir... Il y a un très très bon reportage sur la traversée de l'Hudson qui en parle. Si on est sur la maison de la radio, ils ont des espaces qui peuvent fermer ou ouvrir, qui leur permettent d'avoir l'ambiance et la réverb dont ils ont besoin. Et puis, il y a par exemple une scène où le gars doit parle dans le téléphone. Eh bien, il sort vraiment son téléphone et il a une attitude de parler dans son téléphone parce que tous ces bruitages... Il contribue, même si c'est pas grand-chose pour le téléphone. Il y a un autre moment, je crois que c'est dans la traversée de l'Hudson, où il lance une corde. Ils sont sur un quai et il lance une corde. La corde frappe l'eau, quelque chose comme ça. Il y a toute une partie de bruitage. Et ça, ils sont obligés de le refaire plusieurs fois parce que le dialogue est là. La personne est là, vas-y, je te l'envoie. Et la corde doit frapper, l'eau doit bouger. Et c'est pas bon au premier. Et du coup, ils refont le dialogue parce qu'ils veulent les deux en même temps. S'ils ont besoin de travailler avec des personnages à qui leur arrive quelque chose tout en étant en train de marcher sur un gravier, ils vont aller dans l'espace où il y a les bruitages de gravier. Et donc, le bruiteur, ça peut être Martin H, mais ça peut être d'autres personnes, va se mettre à marcher, lui, dans le gravier pendant que les comédiens vont lire leur texte. Et ils se synchronisent. Un peu comme un bruiteur ferait quand il bruite un film, quand il reprend un bruitage de film. Et ils se synchro. Et après, tout ce qui est produit en poste, ben ça, maintenant, on est en multipiste. Avant, sur des bandes magnéto, c'était un peu compliqué. C'est pour ça qu'on avait tendance à travailler tout en une fois. Maintenant, en multipiste et avec les moyens de mixage qu'on a, ben, on cale notre bruitage à l'endroit qu'on veut et on y revient 10 fois s'il le faut. Donc, on n'a plus ce problème-là. C'est un petit peu notre manière de l'avoir abordé. Mais quand on discute avec, justement, des bruiteurs en cinéma qui pourraient aussi faire de la même manière... qui font en partie de la même manière. Ils aiment bien aussi faire toute une partie. Ils gagnent énormément de temps à faire le bruitage en direct, dans l'action. Et de le timer. Il m'est arrivé, moi, en réalisation audio, d'avoir besoin de traîner un corps. J'avais tué quelqu'un. Donc, il fallait que je traîne un corps. Je pouvais prendre des bruits de vêtements, les bruits de frottement, tout un certain nombre de choses, plus le allaitement pour pouvoir tirer. Finalement, j'ai posé un micro près du sol, j'ai posé un tissu, j'ai mis du poids dessus, puis je l'ai tiré tout en faisant le bruit. Et c'était timé. J'avais mon bruitage et l'ensemble de mes bruitages étaient faits. J'avais tout qui était fait. D'autres questions ?
On a une idée des audiences ?
Pardon ?
L'évolution des audiences dans le temps par rapport à ces productions-là ?
Non, en radio, Médiamétrie donne des audiences, des courbes assez générales, donc c'est un peu compliqué. C'est pour ça que nous, on sait qu'une saga MP3 qui cartonne, c'est de l'ordre de 100 000 téléchargements. Enfin, dans cet ordre de grandeur, on parle de Reflet d'Acide, on parle de Nahelbeuk, on est dans ces eaux-là. Peut-être plus, probablement, mais pas moins. Une audience un peu moyenne, ça va être quelques milliers. Une audience confidentielle, ça va être quelques centaines dans les meilleurs des cas. Et on en sera déjà pas mal content. À l'opposé du spectre, de nouveau en production semi-amateur ou amateur, bah, We're Alive, c'est quelques millions. Mais bon, c'est pas la même audience non plus, puisqu'il couvre les 300 millions d'Américains plus tout le reste des anglophones. Donc c'est relativement plus facile de s'y adresser. Francophonie, 100 000, c'est beau. Hein. Enfin, c'est rare.
Il y a les Japonais qui font aussi pas mal de récits audiophoniques.
Oui, tout à fait. Oui. Je suis resté dans la partie Occident. Mais effectivement, je sais que... En fait, je devais caler en une heure, donc ce sera la prochaine conférence. On parlera du reste du monde. Voilà. Pas de questions, on en voit.